Une bonne nouvelle d'après Jean, lecture suivie de l'évangile de Saint Jean, dans une traduction transposition de Vincent-Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
Après Luc, après Matthieu, voici Jean. Rude tâche que celle de Jean, de le traduire, de le transposer, parce que Jean joue sur plusieurs instruments à la fois. Il y a les faits, bien sûr, qui se recoupent parfois avec ceux de Matthieu et de Luc. Il y a une grande, grande méditation sur le mystère du Christ. Jean est un homme qui était très jeune et, au temps du Christ, qui l'a connu, comme tout le monde, le temps de sa présence, mais l'impact que le Christ a dû avoir sur lui était tel. Jean a conservé en son cœur, d'une façon beaucoup plus forte, peut-être parce qu'il était beaucoup plus jeune, cette figure qui a transformé sa jeune existence au départ. Et alors il y mêle aussi toute la poésie que la méditation et que la mystique, appelleront à ça plus tard, ont développé en lui. C'est pour ça que c'est un texte tout à fait différent de ceux de Matthieu et de Luc que nous entamons aujourd'hui. C'est toujours la belle voix de Daniel Chavy, qui vous présentera les textes que moi-même, Vincent-Paul Toccoli, essayais de mettre dans une langue contemporaine. Eh bien, sans plus attendre, nous allons écouter ce qu'on appelle le prologue, c'est-à-dire l'entrée, l'ouverture de cette espèce de monument magnifique que représente l'évangile de Jean, qui est une méditation sur le mystère de la parole, le mystère du Verbe, le Logos de Dieu. Tout n'est pas dit et tout est dit. Quand la poésie se mêle à la foi, elle devient expérience mystique. Daniel, merci de prêter ta voix. Nous commençons.
Prologue. Tout commence par la parole. La parole ne fait qu'un avec Dieu. La parole, c'est Dieu. Elle commence avec lui. La parole est le devenir des choses, et sans elle, rien de ce qui arrive n'a d'existence propre. Elle contient la vie. La lumière des hommes, la lumière brille dans les ténèbres, et la ténèbre ne peut la comprendre. Un jour, un homme est venu, un envoyé de Dieu. Il s'appelait Jean. Il vint pour témoigner que la lumière existe, et pour convaincre tous les hommes, non pas qu'il fût lui-même la lumière, mais qu'elle existe bien, et que c'est la seule véritable lumière capable d'illuminer tout homme qui vient dans l'univers. Elle est dans l'univers, elle engendre l'univers, mais l'univers ne l'a pas reconnue. Cette parole, cette vie, cette lumière, c'est Dieu lui-même. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Ceux qui le reçoivent, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils adhèrent à son nom, et naissent alors de lui, sans le secours du sang, ni de la chair, ni de la volonté des hommes. La parole est devenue chair, elle a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire d'un Fils unique auprès de son Père, faite d'amour et de vérité. C'est de ce Fils que Jean témoigne quand il s'écrie « Il vient après moi ». Mais il avance devant moi parce qu'il me précède depuis toujours. Il l'est. Oui, de sa perfection nous recevons tous marque d'amour sur marque d'amour. La loi a été donnée par Moïse, l'amour et la vérité sont arrivés par Jésus le Messie. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, depuis le cœur du Père, nous le révèle lui-même. Première semaine. Voici les déclarations de Jean quand les Juifs de Jérusalem envoyèrent prêtres et sacristains l'interroger. « Toi, qui es-tu ? » La réponse fut claire et sans ambiguïté. « Je ne suis pas le Messie. »« Qui alors ? Es-tu Élie ? » ?»«
Non. » »«
Es-tu le dernier prophète avant le Messie ? » ?»«
Non. » »«
Qui es-tu ? » ?»« Nous devons rapporter une réponse à ceux qui nous ont envoyés. » »« Que dis-tu de toi-même ? »
Moi ?
Je suis la voix d'un crieur dans le désert. Je crie, tracez le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète. Parmi les enquêteurs se trouvaient des pharisiens à leur tour. Ils l'interrogèrent. Pourquoi baptises-tu alors si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le dernier prophète ?
Moi, je baptise dans l'eau. Parmi vous se tient quelqu'un que vous ignorez. Il vient après moi et je ne suis pas digne de délier le cordon de sa sandale.
Tout cela se déroulait à Béthanie, au-delà du Jourdain, là où Jean baptisait. Le méandre du Jourdain, où Jean s'était installé à la hauteur de Béthanie, un petit village qui n'existe plus de nos jours, s'était peuplé très vite de pèlerins de toutes sortes qui venaient profiter des paroles violentes et toniques du cousin de Jésus. Mais il y avait aussi toutes sortes d'aigres fins et de mouchards venus, eux, espionner pour rapporter aux autorités le moindre indice, quitte à l'inventer au besoin. Toutes les sectes de Jérusalem envoyaient aussi des émissaires poser à Jean toutes sortes de questions sur sa mission, sur lui-même, sur son autorité, etc. Un groupe de pharisiens, stricts observateurs de la loi, venait justement de lui dire vertement qu'il n'avait aucun droit de baptiser, puisqu'il avouait n'être ni le Messie, ni Élie, ni le prophète.
Ainsi Jean déclare lui-même qu'il n'est pas le Messie. Et s'il le déclare, c'est que peut-être la première communauté chrétienne s'est demandé si ce n'était pas lui, et certains avaient suivi Jean. Tous les événements politiques vont mettre fin à toutes ces erreurs. Ainsi, Jean dit aussi qu'il n'est pas Élie. En effet, la croyance populaire voulait que Élie revienne précéder le Messie. C'est pour cela que lorsqu'on met la table dans une famille juive observante, on met toujours une assiette de plus, au cas où Élie viendrait à l'improviste. Jean dit aussi qu'il n'est pas le prophète. Il ne dit pas qu'il n'est pas prophète. Il dit qu'il n'est pas le prophète, c'est-à-dire celui qu'on attend, car on attend. Alors nous sommes renvoyés à la première partie de cette lecture, merveilleusement dite par Daniel. Comment, après tant et tant d'années de méditation, de silence, de rumination, après tant d'années, comment Jean, le jeune Jean, le petit Jean, celui qui devait avoir 14 ou 15 ans à l'époque de Jésus, comment parler de ce prophète-là, le dernier, de ce Messie-là, l'envoyé, celui qui a été choisi? Alors nous voyons qu'il utilise le mot de la lumière, après avoir utilisé celui de la parole. Parole et lumière. Voici ce qu'il nous propose pour pouvoir méditer sur le mystère sur lequel lui-même, depuis tant et tant d'années, Jean est très âgé, il a médité. Avec le mot parole, nous entrons dans un monde que nous ne connaissons pas, puisque Jean est juif, il parle hébreu ou araméen. Et le mot davar, qui signifie parole en hébreu, signifie à la fois acte et parole. C'est ce qui fait dire que tout ce qu'il a voulu, il l'a fait. Il suffit qu'il dise pour que les choses apparaissent. Que la lumière soit et la lumière fut. C'est une parole créatrice. On dit à l'heure actuelle, en linguistique, c'est une forme performative. Elle accomplit ce qu'elle signifie. C'est tout le sens de la parole du sacrement. Quand le prêtre dit « Je te pardonne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », au moment même où le mot est prononcé, le pardon est réalisé. Quand le prêtre dit, suivant la parole de Jésus, « Ceci est mon corps et ceci est mon sang », c'est la même chose. Et puis il y a cette lumière, qui renvoie naturellement à une façon de voir les choses qui était très répandue depuis les lointains iraniens, avec le culte de la lumière et du feu chez Ahura Mazda, chez Zoroastre. Mais tout cela a traversé toutes ces régions et toutes ces cultures, mais le mot lumière ici, ajouté à la parole, c'est comme une parole et un acte créatif, une parole et un acte, on dirait maintenant électrique, le bing-bang. Nous sommes au cœur même de la création, dans ce prologue inaugural, à l'immense construction que Jean, l'apôtre, ou la communauté johannique, a mise au point et que nous allons poursuivre tout au long des semaines qui viennent. En absorbant petit à petit, gorgée par gorgée, bouchée par bouchée, la méditation christique de Saint Jean l'Évangéliste.
C'était une bonne nouvelle d'après Jean, une traduction-transposition du père Vincent-Paul Toccoli. Daniel Chavy a prêté sa voix pour la lecture. Merci et à bientôt.